Il est donc l'heure maintenant d'accueillir notre grand témoin. Bonsoir Michel Houellebecq.
Vous êtes une salope et vous êtes une putain.
Bon, il va faire un peu de tôle. Je peux pas lui faire de mal.
Ah oui, oui, oui. Écrivain raté, destin raté. Comme j'aime ce mot, raté.
C'est l'heure d'Opium, l'émission d'efflorescence culturelle.
Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs d'RCV, fidèles d'efflorescence culturelle. Aujourd'hui débute une nouvelle émission, Opium. Notre ami Kundera répondait au monde, la culture c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de pensée et de vivre. Nous avons décidé de mettre une pierre à l'édifice. Et pour cela, je ne suis pas seule autour de cette table. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Les États-Unis.
Et nous avons aussi Léo. Léo, bonsoir.
Bonsoir.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Léo ?
De beaucoup de choses, notamment Twin Peaks. Et on va faire un retour sur le festival Pulpaphone où nous avons interviewé le fameux This is la peste.
Nous avons aussi une voix féminine qui m'accompagne ce soir, Salma. Bonsoir.
Bonsoir.
De quoi vas-tu nous parler ?
Un sujet assez délicat pour le coup, il s'agit de féminisme.
On a hâte d'entendre ça. Et Valentin qui conclut ce tour de table. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Justine.
De quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Ce soir, je vous parlerai de Blade Runner 2049.
Eh bien, c'est parti pour Opium, votre nouvelle émission culturelle, d'efflorescence culturelle, sur RCV. Alors Arthur, tu vas nous parler, je crois bien, d'humour.
Oui, je vais essayer en tout cas.
Eh bien, Arthur, nous t'écoutons.
Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle des États-Unis. Donc, il y a une semaine, je quittais la France, pays où les activistes politiques russes en exil brûlent les banques, pour les États-Unis, pays où c'est un peu pas terrible en ce moment. C'est en tout cas ce que m'ont dit mes amis là-bas quand je leur ai dit que je venais les rejoindre. On s'excuse d'avance pour ce qui s'y passe. Enfin après, t'es blanc, ça devrait aller. Qu'importe. Me voilà dans un avion en direction du pays des braves et des pigargues à tête blanche. 15 heures de vol et me voilà en Californie, fief des géants du web, le bon élève avec le dernier iPhone plein aux as de la classe hétéroclite que sont les États-Unis. Ouais, sauf que Jesus fucking Christ, le bon élève est en feu. Un incendie sans doute déclenché par la tension intenable dans le pantalon de Weinstein. D'ailleurs Pavlansky, si tu pouvais clouer les couilles de sport au lieu d'Étienne la prochaine fois, ça en arrangerait beaucoup. Enfin, les incendies sont au nord, je suis au sud, jusque-là tout va bien. On a juste l'impression de fumer sous cloche avec toute la fumée, mais tout va bien. Et en fait, on voit les effets de la sécheresse un peu partout, avec des lacs dont le niveau descend plus vite que la popularité de Monsieur Macron. En passant à côté d'un de ces lacs, mes amis archéologues font presque tous les mêmes remarques. C'est dans ce genre d'endroit que tu trouves plein de corps. Si on débutait les fouilles ici, on résoudrait un paquet d'enquêtes. Et mon ami prof de latin en Arizona, et archéologue depuis maintenant presque 10 ans d'ajouter, je suis trop triste et j'ai encore jamais découvert de restes humains. Alors, bon, il faut dire qu'en ce moment, la moitié des archéologues américains se concentrent sur les ruines de la vie politique de Madame Clinton. Certains disent avoir trouvé les vestiges oubliés du grand gâchis que fut sa piètre campagne, mais ce ne sont que des rumeurs. Bref, les États-Unis, je vais pas vous mentir, j'en suis amoureux. Je veux y habiter, et ce pour plein de raisons. La musique, le cinéma, les voyages, les voitures, les bécanes, mes potes et j'en passe. Mais clairement, le rêve est passé. Routes délabrées, nature profanée, climat déchaîné, droits civiques bafoués. Les jours de gloire sont derrière eux et ça se fait sentir même en Californie. Je n'imagine même pas ce que c'est au fin fond de la Floride. Bon là je prends un exemple un peu extrême parce que pour continuer la métaphore de la salle de classe, la Floride c'est un peu le fêtard drogué au fond de la salle qui essaie désespérément de se remettre de la cuite de la veille et on est mardi. Ça m'a honnêtement inquiété. On aurait pu penser que les deux mandats du premier président noir de leur histoire allaient amener des changements durables, mais c'était sans compter sur le premier mandat de son successeur, pour le coup aussi orange qu'un ciel breton après le passage d'un noir irlandais. Alors, oui, c'est une comparaison qui marche, regardez les infos, et je pouvais pas reprendre la blague Orange is the New Black, elle a été faite trop de fois. Bref, revenons-en à notre mutant, comme l'a dit mon ami avec l'accent américain le plus magnifique qu'un francophone ait jamais entendu, et oui, je pèse mes mots. Tu sais Arthur, ici c'est un peu le merde. Et voilà, ma chronique touche à sa fin, chers auditeurs. La prochaine fois, nous partirons ailleurs qu'aux États-Unis pour rester variés et s'assurer qu'on tape sur tout le monde. Cependant, rassurez-vous, si votre truc c'est les Dodge aux pneus plus larges que la liste des crimes commis par la CIA et les couchers de soleil sur la baie de San Francisco, je reviendrai en janvier avec un autre épisode spécial USA, puisque je pars fêter le nouvel an dans le Colorado avec des amis. Alors non, je suis pas pété de fric, ça manque juste à mes amis ricains d'avoir un Français à humilier et rabaisser, donc ils se cotisent pour me payer le billet. D'ici là, j'évalue à, disons, 54 le nombre d'énormités prononcées par M. Trump en discours officiel et 100% le risque de guerre nucléaire. D'ailleurs, Monsieur le Président, si vous pouviez attendre que les fêtes de fin d'année soient passées pour faire mumuse avec le mallette où est inscrite en lettres rouges Big Bang Bitches, ça serait super sympa de votre part. Ah, les gosses.
Bon, ça donne envie d'aller en Amérique tout ça, Arthur.
Ça reste un très beau pays.
Eh ben, j'espère que tu n'as pas non plus effrayé nos auditeurs. On va tout de suite s'écouter un petit morceau de This is La Peste qu'on aura en interview juste après, puisque Léo et Salma, vous avez eu l'opportunité de le rencontrer au Poulpaphone.
Ouais. Eh oui.
Cool. Et on peut avoir une petite avant-première de ces mots. Enfin, qu'est-ce qu'il vous a raconté ? C'était intéressant ?
Ouais, c'était super, je crois, Salma. Qu'est-ce qui était intéressant ? Eh bien, de le rencontrer et d'avoir son regard, en fait, sur la vie et sur notre époque, qui, effectivement, n'est peut-être pas la plus belle époque dans laquelle on pourrait vivre. Et je pense que Salma lui a posé des bonnes questions, notamment sur l'autotune. Est-ce que This Is est un fan de l'autotune ou est-ce qu'il l'utilise pour modeler sa voix, mais de façon plutôt subjective. C'est très abstrait, mais c'est ouais. Très culturel.
Ouais. Alors, on écoute ça juste après Passage secret de This Is La Peste.
Ce soir, je vais m'anesthésier, m'enfermer et m'enfumer. Ce soir, je vais m'anesthésier, j'aimerais goûter l'éternité.
Poli.
J'ai un poteau qui vide, un poteau qui drink, un poteau qui casino, un poteau qui line, un poteau qui Tinder, un poteau qui rock moi, un poteau qui pipa, à chacun son soma. Ce soir je vais m'anesthésier, j'aimerais connaître l'éternité. Ce soir je vais m'anesthésier, pour ça je vais m'abîmer. J'ai perdu beaucoup d'amis, et ça fait des années. Les cheveux sont très lissés, mais eux se sont dégradés. Pourtant je suis pas mieux qu'un nouveau, tu m'aides moi aussi. Nos parents disaient la même chose, cette époque c'est pas possible. Or liquide ou fumée verte, c'est devenu tradition. Truc blanc sur une table en verre, les belles amies payent l'addition. On fait tous comme Mario Bros, on cherche des passages secrets. Mais est-ce qu'on n'ouvre pas des portes vers de futurs grands regrets? Ce soir je vais m'anesthésier, j'aimerais connaître l'éternité. Ce soir je vais m'anesthésier, pour ça je vais m'abîmer.
Body.
Soma. Soma, ton cœur est gros comme la grande roue sur la place de la Concorde. T'es en montée, t'es en triomphe, t'es en descente, t'es en défense. Les addictions s'additionnent, toxicomane numérique, accro à ton téléphone. Tu es devenu iPhonique, on fait tous comme Mario Bros. On recherche des passages secrets, mais est-ce qu'on n'ouvre pas des portes vers de futurs grands regrets? Soma. Soma, ce soir je vais m'anesthésier, m'enfermer et m'enfumer. Ce soir je vais m'anesthésier, j'aimerais goûter l'éternité. Body's going, body's going. Quel goût à l'éternité, j'ai vraiment trop mal au cœur. Je fais que quelqu'un m'énerve, j'aimerais m'arracher le cœur. Il faut le cautériser, sinon il va pas repousser. Tu n'es pas Satan, petit cœur.
Body.
Vous êtes toujours en direct sur RCV pour la nouvelle émission d'efflorescence culturelle Opium. C'était Passage secret de This is La Peste que Léo et Salma sont allés rencontrer. Ce rappeur, acteur et écrivain de 38 ans qui a sorti son dernier album en début d'année, Pacifique.
Et oui, Justine, alors qu'il était en train de signer des autographes et de prendre des selfies avec ses fans, j'ai interpellé This is la peste. Je lui ai dit que j'étais un pongiste, pigiste de journaliste, ce qui est une référence à son titre Rap Genius où il critique ardemment les journalistes. Et je lui ai proposé de s'entretenir avec Salma et moi, et voilà ce qu'on en a tiré. Enjoy. Donc This is, déjà, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de l'album et de l'enregistrement studio que tu as fait un peu seul, je crois?
Ouais, en fait, c'est donc mon 11e album et ça a été mon album le plus compliqué à faire. Dans le sens où, avec Poisson Rouge, c'est le seul album où il n'y avait pas de concept au départ. C'est-à-dire que dans tous mes autres albums, il y avait toujours un concept et une ligne directrice que je trouvais. Et dans, une fois que j'avais trouvé, bah, je faisais des sons qui rentraient dans ce cadre-là. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai laissé aller le robinet, je l'ai ouvert, et j'ai fait plein de morceaux et après, il a fallu que je cadre. Donc ça, ça a été compliqué. Ce qui a été compliqué aussi, c'est que vu que c'est un album où il y avait des envies sincères et honnêtes de chansons, de différents tempos, que ce soit électro ou rap, bah, c'était compliqué pour les gens avec lesquels je travaille de comprendre que c'était un album qui n'allait pas dans tous les sens, mais qui abordait plusieurs émotions. Et ça, c'était assez compliqué. Donc ça a été un album très long à faire, très dur, mais je suis vraiment content.
Et justement, une des émotions qu'on a trouvées dominantes, c'est le spleen. Et est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de ce sentiment qui est quand même vachement abordé? Et après, on parlera évidemment de l'optimisme qu'il y a derrière.
Ouais.
Mais il y a quand même une forme de tristesse qui est créative, je dirais, quand même, non? Ouais.
En fait, c'est assez délicat parce que je trouve que c'est une posture trop facile qu'on voit chez les artistes. Et la mélancolie pour un artiste, c'est trop facile, quoi. Du coup, j'ai du mal avec ça parce que justement, j'aime pas aller dans la facilité. Pour autant, à chaque fois que je me retrouvais seul pour écrire sur ce disque, il y avait beaucoup de choses tristes qui ressortaient. Et j'ai essayé justement, parce que j'ai cette idée que ah, c'est trop facile, j'ai essayé de lutter contre ça. Mais j'ai essayé de faire des morceaux plus, enfin, qui allaient moins dans ce sens-là, mais je sais pas, c'était la période dans laquelle j'étais. Et du coup, c'est ça qui est sorti, mais j'ai essayé justement d'être subtil, de contraster, de mettre beaucoup de sons lumineux derrière pour que ce soit pas du triste sur du triste. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est un album, il y a beaucoup de spleen quand même, c'est vrai.
Bah, moi, clairement, quand j'en parle avec mes potes et même quand j'en parle tout seul et que je fais de l'autodance, n'est-ce pas, je vois vraiment le spleen, mais le spleen qui n'est pas non plus trop un enfermement, parce que même dans un son comme Ça va aller, tu mets des sonorités électro et qui sont plutôt festives, joyeuses.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport au spleen, à une forme de tristesse, quoi. Et,
ouais.
Et c'est dur de lutter contre ça, mine de rien, non?
Bah oui, c'est très dur. Mais en fait, ce qui fonctionne, je pense, que ce soit dans l'art ou dans la poésie ou la littérature, c'est les contrastes et les nuances. C'est-à-dire que si t'es que dans un aplat de la même couleur, c'est pas intéressant, en fait. C'est pour ça que pour pouvoir aborder quelque chose, un thème lumineux, pour qu'il soit lumineux, il faut qu'il y ait eu le dark avant. Sinon, tu vois pas le lumineux. Si c'est que lumineux, bah, ça devient du chewing-gum hyper sucré et puis tu t'en fous. Alors que c'est pour ça que justement, j'essaie de manier avec nuance le côté dark, comme un morceau comme ADN ou comme Poisson étrange, mais de mettre toujours, soit dans mon intention ou soit dans une musique derrière, quelque chose qui fait que c'est pas que plombant.
Par rapport à l'utilisation d'autotune dans tes morceaux, on sent vraiment que c'est quelque chose qui est propre à toi. C'est-à-dire que tu vas souvent dans les aigus, souvent dans les graves. Est-ce que c'est quelque chose qui justement fait partie de cette envie de faire quelque chose de lumineux, de faire quelque chose de moins peut-être plat?
Oui.
Ou bien c'est...
c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé un autotune. C'est-à-dire que j'ai trouvé un effet qui m'est propre avec mon ingénieur du son. Parce que l'autotune, en fait, c'est tu chantes faux et puis l'autotune corrige tes faussetés.
Oui, c'est un effet.
Moi, je chante pas faux. C'est-à-dire que j'ai travaillé ma voix, j'ai pris des cours de chant, des cours de piano. Merci.
C'est vrai d'ailleurs que sur scène, on voit que Diziz chante très bien. Parfois, il a même des allures un peu à la Jacques Brel, parce que t'es seul sur scène avec le micro et tu chantes réellement. Et
ouais.
Tu chantes bien, très juste. Et ça se sent vraiment.
Bah oui, parce que je voulais pas utiliser l'autotune parce que sur scène, j'allais être complètement enfermé et emprisonné de cet effet-là que tout le monde utilise. Pour autant, il y a des sonorités intéressantes dans ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc je me suis approprié ces effets un peu de texture de voix. Mais pour que ça serve, on va prendre Rado par exemple. Rado, il y a un effet de voix où ma voix, elle est pitchée vers le bas. C'est-à-dire que j'ai chanté en voix de tête, donc en voix aiguë. Ensuite, on a Pitié ma voix. Et ça correspond à la thématique du morceau. La thématique du morceau, c'est quelqu'un qui a plus d'énergie. C'est quelqu'un qui est éteint. Donc, le fait que la voix soit ralentie, ça correspond au truc. Et à chaque fois, on va travailler sur le détail près, comme ça, dans Menteur Menteuse, par exemple. Là, il y a de l'autotune que tout le monde utilise, parce que c'est des menteurs qui parlent. Donc, leur voix, elle est trafiquée. Et à partir du moment où ils se dévoilent, où ils n'ont plus envie de mentir, c'est leur vraie voix. Donc, c'est ma vraie voix qui arrive. Et pareil, au début de Menteur Menteuse, c'est une musique qui est faite avec des programmations électroniques. Et quand on arrive dans la révélation et que les personnes se dévoilent vraiment, c'est des vrais instruments avec un batteur qui vient et qui joue vraiment.
De quoi tu t'es nourri pour cet album ?
Beaucoup de littérature, ouais. Pour ce disque-là.
T'as des références peut-être ?
Ouais. En fait, c'est des livres qui m'ont pété la tête. C'est pour ça qu'il y a un peu de spleen dans... Ouais. C'est vraiment des livres qui m'ont bousillé la tête. Il y a Les veines ouvertes de l'Amérique du Sud, de Galeano. Il y a Exterminer toutes ces brutes, de Linguist. Ces deux livres-là en particulier, ils m'ont vraiment bousillé la tête. Et puis c'est des discussions, et puis c'est... J'ai 38 ans, donc c'est un âge particulier, tu vois, t'as l'autre de la quarantaine. Donc voilà, tout ça a fait que, bon... Et puis l'époque à laquelle on vit, ce qui s'est passé, les attentats, ce truc-là.
Tu veux en parler de ça, justement, parce que Autre Espèce et Carré Bleu, je pense que c'est ces deux titres, justement, qui montrent que t'as envie de te barrer de là.
C'est une volonté, quand tu vois toutes les atrocités qui se passent et tout, tu te dis, mais... Je suis incapable de faire ça à un être humain. Je suis incapable de juger quelqu'un. Je suis incapable d'une telle cruauté. Donc du coup, vu qu'elle est là et que bon, bah j'ai un rejet et je me dis ouais non, j'ai rien à voir avec ça en fait. C'est ça le morceau. Et quand je dis j'ai rien à voir avec cette histoire, c'est pas cette histoire, une petite histoire. C'est l'histoire de l'homme, de l'humanité. Je me reconnais pas là-dedans en fait.
On ressent que tu te mets vachement, que tu prends du recul par rapport à tout ça et que tu dis que t'es carrément dans l'espace quoi.
Ouais.
Tu dirais que tu te sens déconnecté de la réalité parfois ?
Bah en fait je me déconnecte volontairement de la réalité.
D'accord.
Parce que moi je regarde plus la télé depuis une dizaine d'années. Mais vraiment quand je regarde plus, c'est que je regarde plus.
Ça t'intéresse pas ?
Non ouais, c'est que ça m'intéresse pas, que le format ça me donne envie de vomir. Enfin tu vois, c'est insupportable en fait, tu vois.
Anti-conformiste,
je sais pas. Non,
système,
je sais pas, non, parce que je suis obligé de le subir, le système, comme tout le monde. Ce qui me fait pas du bien, je mets off en fait.
D'accord.
Et la télé, ça m'apporte rien, donc j'éteins.
C'est anxiogène, c'est tout ça.
Voilà, c'est ça.
On sent une forme de naïveté dans tes paroles.
Ouais.
Est-ce que tu te. Enfin, t'as peut-être l'impression d'être. On a tous un peu cette impression des fois que tout va très vite et que nous, ben, du coup, on est juste des petits bébés en fait face à tout ça, quoi. Qu'on est un peu naïf face à tout ce qui se passe, qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on est impuissant. C'est peut-être un message que tu essayes de faire passer, surtout dans Autre Espèce, j'avais l'impression.
Bah, dans Autre Espèce,
en parlant maman aussi, en disant maman.
C'est ça, exactement. En fait, on dirait que la vulnérabilité pour un homme, elle n'est pas autorisée encore. Et on peut mettre différentes classes à ça. Elle va déjà être moins autorisée à un homme. Ensuite, elle va être moins autorisée à un homme qui a grandi dans un certain environnement, à part dans un quartier. Et puis, pour quelqu'un qui a ma couleur de peau. Et puis. Mais la vulnérabilité, ça fait du bien. Ça fait du bien de l'exprimer. Et c'est ça, être authentique.
C'est aussi.
C'est être honnête, voilà.
On est vraiment vulnérable en fin de compte.
Bien sûr.
On n'a pas vraiment de pouvoir. On subit un déterminisme.
Exactement. Et donc, quand je raconte ça, quand je fais ça, j'ai l'espoir que quand les gens écoutent ces morceaux-là, ils disent putain, ça me fait du bien, ils disent ce que je ressens. Moi, j'ose pas le dire, mais moi, ça me fait du bien que lui, il le dise. Il y a un peu ça dans ce morceau-là.
C'est clair, et je pense que c'est vrai. Et justement, j'ai une question là-dessus, puisque moi, j'écoute beaucoup ce titre qui t'a fait beaucoup connaître, je pense Rap Genius, qui est une époque où tu claquais vraiment des punchlines et c'était vraiment super agressif. Qu'est-ce qui a changé vraiment de cette époque-là par rapport à maintenant où tu fais des sons plus calme, on peut le dire, plus posé, parce que même tu prends le temps de faire des pauses après tes phases et tout ça, et tu fais plus d'instrumental aussi, je pense. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de concevoir la musique et dans ta façon de peut-être de réfléchir ou de voir les choses ?
Je sais pas si ça a changé, c'est juste que ça correspond à cette période-là. Plutôt que d'être comme un sculpteur qui va prendre un gros burin pour casser des gros morceaux, j'étais plus dans quelque chose de... avec un petit maillet pour bien sculpter, qu'on comprenne bien ce que j'ai envie de dire et être plus transpercé en fait, transpercé plutôt que d'être dans la démonstration et le... voilà, c'est ça, je sais pas.
Ok, et une question plus générale sur le rap game, comme on l'appelle souvent, y a le rap belge qui fait pas mal le buzz et qui même en termes de paroles, de présence, tout ça est vachement bon à écouter. Demain il y a Romeo Elvis qui vient ici et Caballero aussi, ouais, sans Jean Jass avec qui il a fait un album. Est-ce que t'as peut-être quelque chose à dire sur le rap belge? Est-ce que c'est ça fait plaisir de les voir là ou...
De toute façon, ils sont plus forts que les Français dans le sens où ils sont complètement décomplexés des Anglo-Saxons et moi ça m'étonne pas tout ce qui arrive et c'est en gros ce qui a fait émerger le rap belge, c'est Internet, c'est la jeunesse. Ils en ont rien à foutre d'où tu viens, 93, 91 trucs. Est-ce que tu rappes bien? Est-ce que ça me touche ce que tu racontes? C'est ça la génération d'aujourd'hui. Ils sont pas dans des espèces de fantasmes de tu viens de là et tout. Ils ont d'autres fantasmes et tu peux les manipuler autrement, mais pas sur ça, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, bah voilà, un Romeo Elvis, qui est un artiste de qualité, il a sa place. Damso, pareil. Caballero, et Jean Jass, pareil. C'est des artistes de qualité, ils écrivent bien. Bah, les petits, ils sont au courant maintenant, ils écoutent, ils savent, tu vois.
J'ai vu que peut-être t'aimais la photographie.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose que tu aimes aussi, c'est un art aussi auquel tu t'adonnes beaucoup.
Oui.
Et en fait, ça m'a fait rire parce que dans ta chanson, du coup, c'était autre espèce. Dans la vraie vie, il n'y a pas de filtre Instagram. Du coup, je me suis dit, c'est un peu paradoxal, dans le sens où tu prends des photos magnifiques et du coup, tu t'adonnes à ça, etc. Mais d'un autre côté, tu dénonces ça dans une chanson.
Oui.
Du coup, c'est quoi ton rapport à la chose?
C'est que, quand je dis, la face, c'est... Et ça se voit sur beaucoup de visages. Dans la vraie vie, il n'y a pas de filtre Instagram. C'est vraiment la particularité du visage où quand tu te prends en photo, tu vas mettre un beau filtre pour montrer que tu as un beau teint, que tout va bien et tout. Mais dans la vraie vie, on voit si ça va pas, si tu es triste, si tu as des cernes, si tout truc, tu vois. C'est juste à ce niveau-là. Mais tu peux mettre un filtre sur une belle photo, tu vois, sur une photo. Si c'est dans un sens artistique, pour révéler, c'est joli. Mais si c'est un filtre pour cacher, c'est moins joli.
Ah, d'accord.
Tu vois ? Il y a ce qui révèle et il y a ce qui cache. Et je préfère ce qui révèle.
Dans l'émission, on aimerait bien que chaque interview artiste propose un son qu'on diffusera à l'antenne ensuite. Est-ce que tu as un son bien underground, que personne connaît ou qui est vachement bien que tu pourrais nous donner et qu'on pourrait diffuser à l'antenne et peut-être en parler un petit peu ? Comment tu as connu tout ça ?
Alors que personne connaît, je sais pas si personne connaît, mais c'est un morceau qui s'appelle Your Mind, je crois. C'est Raving George.
D'accord.
Raving George, et c'est Oscar and the Wolf qui chante. Et Raving George, c'est une artiste, c'est le pseudonyme d'une artiste qui s'appelle Charlotte de Witt, qui est belge, qui déglingue tout. Et j'aime trop ce morceau, il m'envoûte, c'est magnifique. Cause your mind.
It's 'cause you're mad. It's 'cause. Salma pour cette interview exclusive de This is La Peste pour Opium, puisque nous sommes toujours en direct des studios de RCV 99 FM. On va maintenant parler ciné avec Valentin.
Oui, tout à fait, je suis là. Et donc, j'ai eu la chance de voir le Blade Runner 2049. Ce Blade Runner de Denis Villeneuve, ça fait des années qu'on l'attendait, des mois qu'on nous le promettait. Ce nouveau Blade Runner, en somme, on en rêvait. 35 ans après le Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, voilà donc la nouvelle version, Blade Runner 2049, cette fois de Denis Villeneuve. Pour les rares malchanceux qui n'ont pas été élevés par un papa totalement dingue de ce film, et qui vous l'aurez déjà montré 200 fois, avec toujours les mêmes étoiles dans les yeux. Je me dois tout d'abord de répondre à cette question. Blade Runner, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un classique du cinéma de science-fiction. Il faut savoir qu'à sa sortie, on connaissait deux Star Wars, Alien, bien sûr 2001 Odyssée de l'espace, mais pas encore Terminator, Dune ou même Retour vers le futur. Blade Runner est un précurseur qui a inspiré et continue d'inspirer des centaines d'œuvres aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des premiers films à avoir réellement mis sur le devant de la scène les robots et toutes les questions allant de pair avec l'intelligence artificielle. Les robots ont-ils une conscience ? Sont-ils capables d'aimer ? Peuvent-ils se retourner contre nous ? Autant de grandes questions qui, aujourd'hui encore, prennent tout leur sens. Le niveau était donc très haut et certains puristes criaient déjà au blasphème, scandalisés qu'on puisse oser s'emparer d'un tel classique. Pour ma part, j'étais assez curieux. Il faut dire que Ridley Scott n'a pas passé le flambeau à n'importe qui. Denis Villeneuve, qui, cocorico, est un pur Frenchie, est un des grands réalisateurs de notre génération. Vous le connaissez pour Prisoners, un policier psychologique où Hugh Jackman a pu montrer une fois de plus l'étendue de son talent, pour Sicario, véritable plongée dans les cartels de la drogue, ou plus récemment pour Premier Contact, son premier pas dans la science-fiction. Il y a démontré toute son habileté pour casser les codes et prendre le contre-pied des rythmes habituels. C'est donc avec une certaine confiance que je me suis installé dans mon fauteuil rouge pour découvrir l'univers de Blade Runner 2049, où l'action prend place 30 ans après le premier opus. On suit Kay, un robot hyper perfectionné dont le boulot est justement de supprimer les versions précédentes qui rôdent dans la nature parmi les humains. Sa vie d'androïde, aux sentiments bien réels, bascule lorsqu'il apprend qu'un robot féminin aurait, contre toute logique, donné naissance. On l'envoie pour trouver l'enfant et le supprimer, mais son enquête se transformera vite en quête existentielle où, comme nous tous, Kay cherchera à tout prix la vérité. Alors, chef-d'œuvre ou simple copier-coller ? Mon avis est sans appel, le pari est réussi. Le succès de Blade Runner 2049 tient tout d'abord évidemment au décor. Bien sûr, en 1982, les effets spéciaux laissaient à désirer. C'est donc une louange assez facile. Mais tout de même, on ne peut qu'être impressionné par ces néons bariolés, ces jeux de lumière incessants qui retranscrivent à merveille l'univers de Blade Runner de Scott. Nous sommes définitivement dans une autre dimension. Une dimension de tous les possibles, ultra stylisée, envoûtante. Cette atmosphère mystique est accentuée par la musique, celle que vous entendez actuellement est d'ailleurs une des musiques de l'original. Cette musique du Blade Runner 2049, c'est un bourdonnement entêtant et hypnotisant, qui sait également laisser place à la puissance du silence. Le deuxième point remarquable de ce film est selon moi son rythme. Denis Villeneuve a réussi l'exploit de réaliser un blockbuster d'auteur. Blockbuster de par le budget et les acteurs, mais film d'auteur par sa lenteur. Blade Runner 2049 dure 2h40. C'est beaucoup. Et pourtant, pas un seul plan n'est à jeter. Tout est fluide, savamment pensé. Denis Villeneuve prend son temps et mon Dieu que ça fait du bien. Si vous vous attendez à du Mad Max Fury Road, passez votre chemin, il y a très peu de scènes d'action. Mais une histoire, une véritable épopée et surtout un univers incroyable. Enfin, on pourrait presque croire que le thème de la dystopie est devenu obsolète tant le filon a été usé par de grandes franchises à la Hunger Games ou Divergente. Mais ce film est la preuve qu'on ne sommes pas prêts d'arrêter d'imaginer le pire en espérant bâtir le meilleur. Tout au long du film, de grands sujets ressurgissent, tels que la loi et l'ordre face à la liberté, la soif inextinguible de pouvoir, ou encore l'amour face à une intelligence artificielle. Évidemment, on a déjà fait mieux. Je vous incite notamment à regarder Her, un des meilleurs films sur l'intelligence artificielle, selon moi. Mais ce mélange fonctionne, convainc, par sa sincérité. Blade Runner 2049 reprend les grands thèmes de l'originel, mais l'actualise, le rend plus accessible, moins intello, pour que tous puissent apprécier une réflexion critique sur notre monde moderne. C'est à la fois un film hommage, bourré de références qui raviront les papas dont je parlais tout à l'heure, et un film 100% 21e siècle, bien ancré dans son époque. Mention spéciale pour Ryan Gosling, notre Harrison Ford à nous. C'est vrai, ce rôle était taillé sur mesure pour sa belle gueule mystérieuse, mais il sait doser l'émotion, apporter de très légères variations à sa voix, son regard. C'est un acteur bien plus subtil qu'on ne le pense. En bref, que vous ayez vu le Blade Runner de 1982 ou non, je vous recommande vivement Blade Runner 2049, qui épatera vos yeux, comblera vos oreilles, décuplera votre imagination et vous laissera songeur avec dans la bouche un goût d'ailleurs.
Merci Valentin pour cette chronique ciné. Si j'ai bien compris, il faut foncer au cinéma.
Il le faut, tout à fait.
Eh bien alors, chers auditeurs, après cette émission, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma à proximité de chez vous. En attendant, on va s'écouter un petit morceau sélectionné par la rédaction d'Efflorescence Culturelle qui se nomme Totoro,
oui, c'est ça,
Brocolissimo, ouais. Tout de suite sur RCV.
We'll be right back.
Mais quelle fin, c'était Totoro, vous êtes toujours sur RCV 99FM pour Opium, l'émission culturelle qui réunit Arthur, Léo, Salma et Valentin autour de cette table. C'est maintenant l'heure d'un grand moment, attention, attention.
Et c'est vous, parce que, mais oui, bien sûr,
moi,
vous êtes parti.
Mais qui elle est, celle-là? Qu'est-ce que
le
j'ai fait, moi?
Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Le débat. Et oui, c'est l'heure du débat que tu as choisi, Salma.
C'est ça. À l'heure où le silence est brisé et la parole libérée, les questions relatives à la condition de la femme dans les sociétés sont plus que jamais évoquées. Il semblerait que peu importe ses origines, son statut socio-économique, sa couleur ou sa religion, la femme est ou sera confrontée à des difficultés à cause de son sexe. De ce constat découle la notion de féminisme, que l'on définit comme un ensemble de mouvements qui a pour objectif l'égalité dans son ensemble entre les femmes et les hommes. En quelques chiffres, les hommes, en France, gagnent 19,2% de plus que les femmes. 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail. 97% des PDG sont de sexe masculin en France. Et une femme décède tous les 3 jours, victime de son conjoint. Cela concerne uniquement la France, l'un des pays, que je dois rappeler, les plus développés au monde. Au Maroc, par exemple, les chiffres sont plus poignants. Une femme devrait tolérer la violence pour préserver l'union de sa famille pour 62% des hommes. Une femme qui s'habille de manière provocante mérite d'être harcelée pour 72% des hommes. Et un mari qui force son épouse à avoir des rapports sexuels ne doit pas être poursuivi pour 66% des hommes. Cela met les choses en perspective. Et comme l'illustrent parfaitement Leïla Slimani et Laetitia Corinne dans la BD Parole d'honneur, la société marocaine et musulmane condamne le désir et la liberté d'aimer, qui sont des libertés fondamentales. Dans cette BD bouleversante, Leïla Slimani laisse la parole aux femmes et lève le voile sur le drame de la condition féminine au Maroc. Cela soulève de nombreuses questions, mais il y a toujours très peu de progression. L'IVG est interdite au Maroc, il y a le lynchage et l'humiliation constante des femmes, et le code pénal qui punit le sexe hors mariage ou encore l'avortement. Tout cela indique un véritable mal de société et le constat universel que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes sur pratiquement tous les plans socio-économiques. D'où l'émergence de mouvements féministes. On notera Ni pute ni soumise en France, ou encore Femen en Ukraine, ou UK Feminista au Royaume-Uni. Tout d'abord, je me suis posé la question, pourquoi cet aspect négatif du terme féministe? Pourquoi cette vision péjorative? Les féministes sont souvent qualifiées de masculines, hystériques, violentes. Pour quelle raison? Les hommes à cette table, vous pouvez peut-être répondre à ça. Vous sentez-vous menacé par car cela implique la destruction du patriarcat? Alors, désolé, j'ai bugué.
Ça dépend, je trouve qu'il y a différentes formes de féminisme et il faut savoir faire la différence entre les femmes qui, effectivement, sont extrêmement remontées contre les hommes de manière générale et qui trouvent que l'homme sera toujours dans cette position, effectivement, tout à fait patriarcale et que c'est quelque chose qu'il faut lutter par essence, ou il y a certaines féministes qui, elles, veulent tout simplement l'égalité pure et au final ne plus être embêtée par ces distinctions homme-femme. Et je pense que c'est ce féminisme-là qu'il faut promouvoir.
Oui, alors on l'appelle féminisme, mais on pourrait l'appeler égalitarisme, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait l'égalité en droit des hommes et des femmes. Et puis le problème avec le féminisme, c'est que stricto sensu, ça exclut les hommes. Et du coup,
non.
Si, quand même.
Non. Dans sa définition, ça vise l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bah, ça dépend des définitions, justement. Alors,
donc,
moi,
l'égalitarisme.
Voilà, c'est pour ça que l'égalitarisme, c'est plus...
Faisons un tour de table pour savoir quelle est votre définition du féminisme, selon vous. Pour voir un peu...
Quelle est la tienne, Salma, déjà?
C'est, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est...
Du coup, tu l'as pompée, c'est pas la tienne.
Non, pas du tout. J'ai pris différentes idées qui étaient dans ma tête pour arriver à la conclusion que c'est bien un mouvement pour prôner l'égalité totale entre les femmes et les hommes.
Mais je pense
pas
que
de supériorité.
Je pense que personne ici sera contre l'égalité de droit entre les femmes et les hommes. Là, on va se chipoter sur en fait, une terminologie. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Après, il faut se poser la question, est-ce que les féministes... ont raison de faire des actions parfois extraordinaires, très démonstratives, comme par exemple, les actions des Femen. Est-ce que c'est intéressant de voir des femmes seins nus, à part pour les pervers que je vois à la table?
Tout à fait.
Est-ce que c'est intéressant de voir des femmes seins nus gueuler des slogans pour l'égalité? Moi, je pense que oui, c'est pas mal, ça permet de sensibiliser les gens. Mais après, parfois, ça va trop loin.
D'accord.
Et il faut savoir, aussi, je pense, tempérer.
Cela m'amène à la question, les hommes ont-ils le droit aujourd'hui d'avoir une opinion sur le féminisme, autre que l'approbation totale de celui-ci ? Et sont-ils légitimes à justement donner leur opinion comme Léo vient de le faire ?
Bah, je pense qu'on peut avoir une opinion dessus. Après, en tant qu'homme, on ne sait pas ce que vivent les femmes dans la société de nos jours. On peut qu'en être témoin de façon plus ou moins lointaine. Cependant, on peut être acteur, on peut se comporter de façon correcte, essayer d'agir de façon plus appropriée et de rétablir une certaine égalité entre les femmes et les hommes. Après, pour ce qui est de savoir si les actions des féministes sont parfois trop extrêmes, les gamins des cités, ils n'auraient pas pu s'exprimer avec du jazz, ils ont dû utiliser le rap. C'est pareil, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition et en fonction de des difficultés auxquelles on fait face, on les adapte. Donc forcément, il y a de la violence parce qu'elles sont elles-mêmes victimes d'une grande violence. Après, je pense que, enfin, personnellement, pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, je ne me sens pas particulièrement en danger puisque je pense que la majorité des féministes sont très intelligentes et savent faire la différence. Tout comme la plupart des mecs, après s'être fait briser le cœur, ne vont pas dire toutes les filles c'est des salopes.
D'accord.
Ouais, après, moi je trouve qu'il y a un excellent documentaire qui est passé sur France 2,
dans
l'émission Infrarouge, qui parle du harcèlement sexuel au travail. Et je pense qu'on se rend compte de pas mal de choses dans ce documentaire. Et ouais, moi je crois qu'en réalité, quand on est un homme, enfin, ça va paraître con ce que je vais dire évidemment, mais on ne se rend pas compte de ce que vivent les femmes au quotidien.
Bien sûr.
Une fois qu'on s'en rend compte, on change notre regard, je pense, parce que c'est facile, au final, d'être un homme dans cette société patriarcale, n'est-ce pas ? C'est parce qu'on est toujours plus ou moins avantagé, alors qu'une femme sera possiblement soumise à commentaires, ou en tout cas, sera plutôt considérée parfois comme un objet. Et ça, c'est pas acceptable. Et ça, je pense qu'en tant qu'homme, on peut s'engager et dire ce n'est pas acceptable, et essayer à notre niveau de faire changer les choses. Par exemple, si un gros connard dit à une jeune femme, enfin, lui fait des remarques, on peut dire, bah, gros, qu'est-ce que tu racontes ? Et ça, je pense que c'est un bel acte.
D'accord.
Mais c'est le souci, justement. Je pense que les hommes ne pourront, ou alors très difficilement, jamais se sentir aussi concernés que les femmes, parce qu'on ne le vit pas et on ne le voit pas de nos propres yeux, ou alors très rarement. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me racontent beaucoup d'histoires, et je me rends bien compte que le harcèlement, ne serait-ce que le harcèlement de rue, est un phénomène massif. Mais tant que je ne le vois pas moi-même, tant que je ne le vis pas, tant que je n'ai pas peur, parce que c'est aussi la peur que doivent supporter toutes les femmes, qui est terrible, mais tant qu'on n'est pas confronté à ça viscéralement, forcément, on n'a pas spécialement envie de changer, on ne se rend pas forcément compte. Et c'est ça qu'il faut vraiment montrer.
Bien, justement, le harcèlement sexuel a été exposé ces derniers jours suite aux révélations accusant le réalisateur américain Harvey Weinstein. À la manière d'un effet domino, les femmes refusent de se taire et exposent leur agresseur, notamment sur Twitter où la sphère féministe est très développée. Et c'est de là, notamment de la sphère féministe, qu'a émergé entre autres l'idée du manspreading. Et aujourd'hui, c'est sous le hashtag « Balance ton porc » que les femmes dénoncent les actes odieux qu'elles subissent au travail. Donc l'harcèlement sexuel est aujourd'hui plus que jamais sous les feux des projecteurs, et on peut vraiment parler d'un tournant social. Et justement, quelle est la limite en fait entre le décent et le harcèlement ? Et comment instaurer dans la conscience collective une limite définie ? Est-ce qu'il faut se référer à un consentement explicite ou comment savoir justement, comment reconnaître un harcèlement ?
C'est marrant ça, je pense qu'Arthur, toi tu peux parler peut-être des États-Unis où effectivement...
Oui, on peut en parler. Après, la limite entre harcèlement et décent, ça fait des siècles, si ce n'est des millénaires, que les hommes ont pris pour habitude de décider à la place des femmes. Ça se voit alors aux États-Unis, alors avec Weinstein, mais aussi avec des lois qui sont passées contre le droit à l'avortement ou le planning familial. Enfin, c'est des choses, au bout d'un moment, ça concerne les femmes, laissez-les décider, un point c'est tout. Et la différence entre harcèlement et décent, bah, c'est simple. Déjà, quand tu es producteur de films, pour un rendez-vous qui concerne le travail, tu n'invites pas l'actrice dans ton hôtel privé. Ça paraît, c'est la base, quoi. Dans le cadre du travail, ça se fait dans un bureau. Déjà parce que pour les hommes, c'est comme ça que ça se passe, et donc une actrice mérite ce genre de traitement aussi. Et puis parce que c'est pas correct tout simplement. Et puis, enfin, entre décent et harcèlement, si tu t'approches de la fille et puis que déjà tu te comportes comme un goujat et qu'elle te repousse.
bah écoute, tu rentres ton paquet dans ton froc et puis tu t'arrêtes. Enfin, c'est vraiment, c'est une question de bon sens et tout. C'est même pas une question d'éducation, je pense, puisque la plupart de ces hommes, je pense, n'ont pas été éduqués pour devenir des porcs. Mais
sauf les porcs.
Dans le cas de Weinstein, je sais pas, parce qu'apparemment son frère aussi est impliqué. Donc apparemment c'est un truc de famille. Ouais. C'est triste, mais
congénital.
C'est un problème. Ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment pas le seul en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un effet boule de neige et tout le monde, tous les noms ressortent. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, il y en a partout du harcèlement sexuel.
Partout,
et surtout
sport,
dans cette industrie-là où justement les femmes sont mises en valeur et les femmes sont assez sont assez féministes dans ce monde-là en général. Et ça fait mal de voir qu'elles-mêmes sont touchées. Donc on peut citer Cara Delevingne, des tas d'actrices.
Des actrices, il y en a des centaines.
Des femmes comme ça qui sont justement un symbole de pouvoir.
Mais pas que des actrices, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les actrices sont mises en lumière. Mais combien de femmes au quotidien se sont fait agresser
dans
les
milieux?
Il
ne
faut pas les oublier.
Ce que je souligne justement, c'est que ces personnes-là sont justement des gens qu'on ne soupçonne pas à pouvoir vivre ce genre de choses. Puisqu'on dit qu'elles sont genre indépendantes, elles sont fortes, mais en fait ça touche tout le monde encore.
Alors,
une fois
après Weinstein, son surnom au Festival de Cannes, c'était le porc.
Ah ouais.
Faut le savoir, c'était connu de tout le monde. Et ça m'a brisé le cœur de savoir que Tarantino était conscient de ça depuis le début, que c'était un grand ami de Weinstein, parce que du coup ça remet en question pas mal de choses. Un réalisateur comme Tarantino, qui passe souvent sous le feu des critiques pour les propos dans ses films, quand il les justifie en disant que c'est juste pour un film, bah quand on voit qu'il a été ami avec un violeur et qu'il le savait, ça remet en question.
Ouais, bah, justement, c'est toute la loi du silence dans ce cas-là. Et donc, juste pour conclure, pensez-vous qu'on ait besoin du féminisme aujourd'hui dans la société occidentale telle qu'elle est? Ouais.
Je pense un minimum, parce que les inégalités sont toujours présentes. Donc, il y a un moment, il faut continuer. Mais il s'agit de trouver la limite. Il faut qu'il y ait un éveil des consciences. Et selon moi, ça passe surtout par l'éducation. Il faut éduquer dès le plus jeune âge pour que les hommes se rendent compte qu'ils ne sont pas supérieurs.
D'accord.
Et puis après, ouais, juste ajouter un dernier truc, je pense que parler de féminisme en Occident, c'est peut-être un peu limite, un peu facile, même s'il y a besoin d'une sorte d'égalitarisme, que les femmes aient plus de droits, notamment salarial, et aussi qu'elles ne se fassent pas agresser. Je pense que parler de féminisme, par exemple dans les pays du Maghreb d'où tu viens, Salma, je pense que c'est encore plus pertinent, parce qu'il y a énormément de choses à faire.
Justement, je pense que c'est pertinent dans toutes les sociétés, c'est relatif, et c'est incroyable de voir que toutes les sociétés sont touchées.
Bien sûr, mais je crois qu'il y a des pays où il y a plus de choses à faire que d'autres. En France, on peut avouer que...
C'est une façon de voir les choses. Pour moi, les féminismes se valent, et tous les combats se valent.
Bien sûr, mais je pense qu'il y a plus de choses à faire dans certains pays.
Ouais. D'accord. En conclusion, pour citer Alexandre Dumas-Fils, les féministes, passez-moi ce néologisme, disent « Tout le mal vient de ce qu'on ne veut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme, qu'il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu'à l'homme. » Voilà.
Eh bien, merci Salma d'avoir animé ce débat qui, malheureusement, me paraît sans fin. Mais on va passer un petit morceau de musique et tout de suite parler série avec toi-même, Léo.
Yes.
Donc on écoute maintenant Beach Fossils Down the Line, excusez mon accent.
Excellent accent.
Désolé. Choisi par la rédaction d'Efflorescence Culturelle.
Written on the concrete.
Vous êtes toujours sur RCV 99FM pour l'émission culturelle Opium. Léo va nous parler aujourd'hui dans sa chronique série de Twin Peaks et plus précisément de la saison 3 qui s'est achevée mi-septembre en France.
Ah, Twin Peaks. Peu populaire en France, cette série imaginée par Mark Frost et David Lynch est réapparue à l'écran cette année après 25 ans d'absence. Twin Peaks, c'est une ville imaginaire située dans l'état de Washington, proche de la frontière du Canada. Une sorte d'Amérique profonde, débile, mais attachante où force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose, jusqu'au jour où le cadavre d'une jeune et jolie étudiante est retrouvé emballé dans un sac plastique sur la berge d'une rivière par un retraité qui allait pêcher. Elle s'appelle Laura Palmer, et c'est le génialissime agent du FBI, Dale Cooper, qui est chargé d'enquêter sur ce curieux meurtre à Twin Peaks. Mais que se passe-t-il dans cette saison 3 intitulée « Le Retour » ? Nous avions laissé Cooper possédé par l'esprit démoniaque Bob dans sa chambre du Great Northern Hotel. On le retrouve dans cette nouvelle saison face à son doppelganger, un double diabolique, à se battre pour modifier le passé, le présent et le futur grâce à la Black et la White Lodge. Va-t-il y arriver ? Vous l'aurez compris, la série alterne entre réalité et fiction, comme souvent chez David Lynch. Alors bien sûr, il est impossible de tout comprendre, tout simplement parce que l'intérêt n'est pas là. Si les premières et deuxièmes saisons sont assez accessibles, la troisième ne l'est pas vraiment. On pourrait critiquer l'onanisme intellectuel de David Lynch qui attend le dixième épisode pour faire avancer l'intrigue, mais quel plaisir. Quel plaisir de voir Kyle MacLachlan jouer une espèce d'énergumène qui répond au nom de Dougie. Quel plaisir de revoir Bobby Briggs, ancien caïd du lycée devenu flic, et bien sûr James Hurley, le personnage au front imposant qui interprète son fameux Just You au double R. Je ne divulguerai pas la fin de la saison, mais si David Lynch est un génie, il restera à jamais le maître absolu du déroutement. Dans cette troisième saison, en plus de faire voyager l'intrigue en dehors de Twin Peaks, il se permet de faire des plans dignes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Son projet de faire un film de 18 heures est abouti, cerise sur le gâteau. Il fait apparaître la magnifique Monica Bellucci dans une délicieuse séquence où elle pose une question aussi existentielle qu'essentielle pour les fans de la série où réel et onirique s'entremêlent. Si nous sommes des rêveurs vivant dans des rêves, c'est une phrase répétée plusieurs fois, « We live inside a dream », alors, s'interroge-t-elle, « Who's the dreamer ?» Qui est le rêveur ? Étrangement, cette phrase ressemble beaucoup au dernier vers du poème d'Edgar Allan Poe intitulé « A dream within a dream ». Je cite, « Tout ce que nous voyons ou croyons n'est donc qu'un rêve dans un rêve ?» Pas de peau pour toi, David, tu vas te faire lyncher.
Et donc cette série, va-t-elle se poursuivre après cette saison 3 ?
Alors c'est la question, je crois. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que David Lynch a achevé la série en laissant encore plus d'interrogations dans la tête des fans. Mais c'est ce qui est propre à lui. Et
ouais, c'est son but à chaque fois.
C'est son but et je crois qu'il n'a pas envie de refaire une saison. Quoique, on verra.
Eh bien, merci Léo pour ta chronique série. On va tout de suite, dans quelques instants, faire une petite carte blanche que vous nous avez préparée, Salma et Léo. On écoute juste avant Corridor, coup d'épée.
We'll be right back.
c'était Corridor avec Coup d'épée, une musique choisie dans la playlist d'efflorescence culturelle, puisque vous êtes toujours dans l'émission Opium et c'est l'heure de la carte blanche donnée ce mois-ci à Salma et Léo, qui se sont rendus au festival Poulpaphone dans le Nord.
Et oui Justine, on est allé avec Salma à Boulogne-sur-Mer, belle ville où il pleut autant qu'au Havre, autrement dit il faisait un temps de merde. Le vendredi, nous pensions aller au concert de Désise la Peste, ce jeune homme de 12 ans aussi.
Alors, on est à quelques temps du concert de Désise la Peste.
Ouais.
C'est lui que t'es venu voir?
Ouais, carrément, ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes chez Désise?
J'aime tout, ses textes, son flow, je kiffe tout.
T'as écouté son dernier album?
Ouais, grave.
C'est quoi ta chanson préférée du dernier album?
Splash.
D'accord. Et à quoi tu t'attends ce soir?
Qu'il foute le feu, quoi.
Le feu?
Le feu, oui, c'était le feu parce que l'artiste locale boulonnaise Stacy Le Panari a repris Qu'ils ont de la chance de Disease. On écoute.
Sur moi, il y a plus de notion du temps.
Aïe 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 les oreilles, les oreilles. Il y avait aussi des fausses fans de Disease malaisantes qui feraient plaisir à Michel Polnareff.
Et vous les filles, vous êtes venues voir qui ce soir?
Disease la Peste.
Disease la Peste. T'es une fan depuis longtemps?
Non, pas beaucoup.
Non,
non.
T'as écouté son dernier album Pacifique?
Non, pas encore.
Ah non, pas encore.
Non.
Et toi?
Non, pas encore non plus.
D'accord.
Et finalement, Disease est apparu sur scène et on a entendu des gros cons gueuler qu'ils étaient des menteurs.
Les gars, on va reprendre la température. Les gars, vous êtes là ou pas? Je vous entends pas. Les gars, vous êtes là ou pas? Les filles, vous êtes là ou pas?
Eh bien, ça avait l'air sympa le Poulpaphone. Je crois que Salma, toi aussi, t'étais dans la foule.
Alors oui, moi j'y étais. Enfin, là, à ce moment-là, j'étais plus en train de zoner dans les petits coins du festival et j'essayais de demander aux gens pour qui ils étaient venus. Je voulais vraiment savoir pour qui ils étaient venus, mais c'était impossible de savoir. Du coup, j'ai juste posé une question et voilà ce que ça a donné.
Vous êtes venus pour voir qui principalement au festival?
Comment il s'appelle le gars là?
Moi je connais personne, mais c'est juste pour m'amuser parce que je connaissais pas le festival.
Non, en fait, parce que je les connais pas, mais la musique est bien. Enfin, ce que moi je connais pas, je m'amuse bien.
D'accord.
Ok, ceux qui étaient ravis du concert de Roméo Elvis et qui en voulaient encore.
Départ! La folie!
C'était ouf!
C'était super!
On
veut encore!
Et ceux qui sont fascinés par la technologie.
Ouais. Ah, et il enregistre le truc.
Oui, là.
Faut pas dire de conneries, t'es con.
Non, tu croyais que c'était une Game Boy.
Et ceux qui le recommanderaient pas à leur maman.
Ma mère, je lui dirais pas de venir.
Bah pourquoi?
Tu vaut mieux pas le
Non, mamie, elle risque de craquer. Hein.
Elle risque de craquer.
Elle confond le joint et le thym, elle va pas comprendre la différence. C'est-à-dire, il y a un mec qui cuisine.
Tu veux pas de ma mère?
Elle connaît même pas ma mère. Elle va couper ma mère au montage.
Une petite éducace peut-être.
À mamie Danielle. Ah.
Ok, mamie Danielle, si tu nous écoutes, on t'embrasse très fort du festival Poulpaphone.
Bon, voilà, c'était éclectique.
Explosif, quoi, comme festival.
Bisous à mamie Danielle, alors, du
ouais,
coup.
Bisous à mamie
ouais,
Danielle.
Ouais, on embrasse mamie.
Salut,
Danielle. Mamie.
Des bisous.
Bon, les amis, je crois que c'est la fin de cette émission qui s'achève déjà.
Oh non.
En tout cas, c'était cool puisqu'on a pu avoir le biais d'humour, d'Arthur.
C'est un peu les
un
deux.
Peu des deux ouais.
Un c'est peu ça, des ouais. deux pour le coup. La chronique série de Léo, le débat de Salma et la chronique ciné de Valentin. Je vous remercie d'être venu autour de cette table et...
Merci à toi, Justine.
Merci à Lucille Moy, d'Efflorescence culturelle.
Oui. Tout à fait.
Pour nous permettre notamment de faire cette émission. Et à Benoît, qui est aussi également à la technique, à un peu l'enregistrement, au
d'RTV.
Soutien moral, soutien physique. Il est sous la table actuellement. Merci.
Et également, merci à toi, Léo, d'avoir imaginé et pensé cette émission. Nous, on va se retrouver, on espère, très prochainement sur les ondes d'RCV. Et on se quitte avec Super Parka, avec le morceau Girl.
Yes.
since you're all I And I know what you need now
I'm still